Casanova, l'IA de Turin. Après avoir quitté la seconde MM à Chambéry, Casanova reprit sa route de pèlerin, d'aventurier d'amour, à la merci d'un sourire de jolie femme. Il passa à Grenoble, où il fait la connaissance platonique de Mademoiselle Romance, la future maîtresse de Louis XV, descend à Avignon, à Marseille, à Toulon, à Nice, semant çà et là des baisers sans importance. Il traverse la Méditerranée en felouque, aborde à Gênes, se dirige vers Pise, Florence, où il retrouve une jolie Thérèse qu'il avait connue à Rimini au commencement de 1744 et beaucoup aimée, comme tant d'autres. Elle est mariée à un monsieur Palessi et chante à l'opéra. Il lui donne en hâte quelques baisers d'amant et reste son ami. Il assiste chez elle à une répétition, suivie de dîner où il va trouver de nouvelles victimes. En quittant Florence, Casanova a parcouru l'Italie. Il a même à Rome vu le pape, reçu sa bénédiction et la croix de l'ordre de l'éperon d'or, avec le diplôme et une patente au grand sceau pontifical, qui, en sa qualité de docteur en droit, le déclarait protonotaire apostolique extra urbem. Puis séjour à Naples, à Bologne, à Modène, à Parme, à Turin. Dans cette dernière ville, une curieuse aventure. À Turin, je me logeais dans une maison particulière où logeait l'abbé Gamma qui m'attendait. Malgré le sermon que me fit le bon abbé sur l'économie, je pris tout le premier. C'était un très bel appartement. Après avoir tout réglé avec l'hôtesse pour ce qui regardait ma table, je sortis et, étant entré dans un café pour y lire les papiers publics, la première personne qui s'offrit à mes regards fut le marquis des Armoises que j'avais connu en Savoie. Nous allâmes nous promener dans la belle allée qui donne vers la citadelle, où je remarquai une foule de très jolies personnes. Turin est la ville d'Italie où le sexe a tous les charmes que l'amour peut lui désirer, mais où la police est la plus gênante. La ville étant petite et très peuplée, les espions se trouvent partout. Cela fait qu'on ne peut y jouir de quelque liberté qu'avec des précautions extrêmes et au moyen d'entremetteuses fort adroites et qu'il faut bien payer, car elles risquent, si elles sont découvertes, d'être barbarement punies. On n'y souffre ni femmes publiques ni femmes entretenues, ce qui plaît beaucoup aux femmes mariées et ce que l'ignorante police aurait dû prévoir. On sent combien la pédérastie doit avoir beau jeu dans une ville où les passions sont fort vives. Parmi les beautés qui avaient attiré mes regards, une seule me captiva. Je demandai son nom à des Armoises, qui les connaissaient toutes. « Oh, c'est, me dit-il, la fameuse Lia, une juive invincible, qui a résisté aux attaques des amateurs les plus famés de Nurin. Son père est un maquignon renommé. Il n'est pas difficile d'aller chez elle, mais il n'y a rien à faire. » Plus l'entreprise était réputée difficile, plus je me sentais aiguillonné à encourir les risques. « Mais amenez-moi chez elle, » dis-je à des Armoises, « ou quand vous voudrez. » Dès que nous eûmes dîné, des Armoises me conduisit à la partie du pot chez le maquignon père de Lia. Je lui demandai s'il avait un bon cheval de selle. Il appelle un garçon, lui donne ses ordres, et pendant qu'il parlait, voilà sa charmante fille qui se présente. Elle était éblouissante. Elle pouvait avoir au plus 22 ans. Sa taille svelte, élancée, en nymphe, une chevelure superbe du plus beau noir, au teint de lys et de rose, les yeux les plus beaux, pleins d'esprit et de feu, de longues paupières et des sourcils si bien arqués qui semblait déclarer la guerre à tous ceux qui prétendaient à la conquête de tant de charmes. Tout en elle annonçait l'éducation et l'usage du monde. Absorbé dans la contemplation des charmes de cette belle personne, je ne voyais pas le cheval qui était devant moi. Je l'examinais cependant, contrefaisant le connaisseur, et après lui avoir tâté les genoux, les jambes, remué les oreilles et examiné la bouche, je le fis monter pour examiner son allure au pas, au trot et au galop. Puis je dis aux Juifs que je viendrai le lendemain matin en botte pour l'éprouver. Ce cheval était un beau gris pommelé et coûtait 40 pistoles de piémont, environ 100 sequins. « Il est la douceur même, me dit Lia, et il va si bien à l'amble qu'il égale à cette allure le trot de tout autre cheval. Ah, vous l'avez donc monté, mademoiselle ? Plusieurs fois, monsieur, et si j'étais riche, je ne le vendrais jamais. Vous feriez deux heureux, car depuis que vous l'avez monté, il doit vous aimer. Je ne l'achèterai que lorsque je vous l'aurai vu monter. » Elle rougit. Il faut faire plaisir à monsieur, lui dit son père. Elle y consentit, et je leur promis de revenir le lendemain à 9 heures. Je fus exact, comme on peut le croire, et je trouvai Lia costumée en courrier. Quel corps, quelle forme de Vénus Callipyge ! Oh, j'étais déjà vaincu par le prestige. 2 chevaux étaient préparés. Elle s'élance sur le sien avec l'aisance et la grâce du plus habile écuyer. Je monte sur l'autre. Nous sortîmes et nous fîmes une assez longue promenade. Le cheval allait fort bien, mais que m'importait la monture ? Je n'avais des yeux de pensée que pour elle. En me retirant, je lui dis « Ben, belle Lia, je vais acheter le cheval, mais c'est pour vous en faire présent. Oh, si vous ne l'acceptez pas, je quitte Turin aujourd'hui même. Je ne mets d'autres conditions à mon présent que la complaisance de le monter avec moi quand je vous en prierai. » Voyant à son air qu'elle prêtait favorablement l'oreille à mes discours, je lui dis que je resterai 6 semaines à Turin, que j'étais devenu amoureux d'elle à la promenade et que l'achat d'un cheval n'avait été qu'un prétexte pour trouver l'occasion de lui faire connaître mes sentiments. Elle me répondit d'une manière très modeste que l'amitié qu'elle m'avait inspirée la flattait infiniment et que le généreux présent que je lui faisais n'était pas nécessaire pour m'assurer de la sienne. Mais la condition que vous m'imposez m'est extrêmement agréable et je suis sûr de faire plaisir à mon père en l'acceptant. Puis elle ajouta « La seule grâce que je vous demande est de me faire le cadeau en sa présence, en répétant que vous ne l'achèterez qu'à la condition que je l'accepte. Je me vis en bon chemin, plus aisément que je ne l'aurais cru, et je fis la chose comme elle le désirait. » Son père, qui s'appelait Moïse, trouva ce marché fort bon, fit compliment à sa fille, reçut les 40 pistoles dont il me donna quittance, et me pria de lui faire l'honneur d'aller déjeuner avec eux le lendemain. C'était ce que je voulais. Le lendemain, Moïse me reçut avec la plus grande vénération. La belle Lia, vêtue en fille, me dit que si je voulais monter à cheval, elle s'habillerait en un instant. « Bon, nous monterons un autre jour, aimable Lia, lui dis-je. Aujourd'hui, je suis heureux de vous entretenir chez vous. » Mais le père, avide comme tous ses religionnaires, me dit que si j'aimais la promenade, il pourrait me vendre un fort joli phaéton avec 2 chevaux excellents. « Vous pouvez les faire voir à monsieur, » dit Lia. « D'accord, peut-être avec son père. » Sans répondre, Moïse sortit pour les faire atteler. « Je les verrai, » dis-je à Lia, « mais je ne les achèterai pas, car je ne saurais qu'en faire. » « Vous irez vous promener avec la dame que vous aimez ?»« Ah, ce sera donc avec vous, mais peut-être ne l'oseriez-vous pas ?»« Et pourquoi pas à la campagne, aux environs de Turin ?»« Eh bien, Lia, je les verrai. » Le père vint, nous descendîmes. La voiture et les chevaux me plurent. Et je dis à Lia... « Eh bien, dit Moïse, tout cela ne coûte que 400 sequins, mais après Pâques, si quelqu'un le veut, ce ne sera pas moins de 500. » Lia monte, je m'assieds auprès d'elle, et nous voilà à courir les chemins pendant 1 heure, puis nous rentrons. Je dis à Moïse que je lui rendrai réponse le lendemain. Il part et je monte avec la belle Lia. « Tout cela, ma chère, lui dis-je, quand nous fûmes dans la chambre, Vaut bien 400 sequins, et demain je les paierai avec plaisir, mais aux mêmes conditions que le cheval, et une condition de plus. C'est que vous m'accorderez toutes les faveurs que l'on peut attendre d'un amour long et partagé. Vous parlez clairement. Il faut que je vous réponde de même. Je suis honnête fille et je ne me vends pas. Sachez, belle Lia, que toutes les femmes, honnêtes ou non, se vendent. Quand un homme a le temps, il achète par des soins assidus la femme que son amour convoite. Quand il est pressé, comme moi, il met en usage les présents et même l'or. Cet homme est un maladroit. Il ferait mieux de donner au sentiment le temps de plaider sa cause par des soins assidus. Mais ce serait pour moi le comble du bonheur, Lia, mais je suis pressé. Son père étant entré, comme j'achevais, je partis en lui disant que si je ne pouvais pas venir le lendemain, je viendrais le surlendemain, et qu'alors nous parlerions du phaéton. Il était évident que Lia m'avait pris pour un prodigue digne de devenir sa dupe. Elle aurait voulu le phaéton comme elle avait eu le cheval. Mais, de mon côté, je savais que je n'étais pas novice. Je m'étais facilement résolu au sacrifice de 100 sequins à tout hasard, mais là, devraient se borner mes prodigalités en l'air. Je pris le parti de suspendre mes visites et d'attendre pour voir comment l'affaire se terminerait entre elle et son père. Je comptais beaucoup sur l'avidité du juif qui, aimant beaucoup l'argent, devait être fâché que sa fille ne trouva pas le moyen de me faire acheter la voiture en se donnant ou en ne se donnant pas à moi, car cela devait lui être parfaitement égal. J'étais presque certain de les voir venir d'eux-mêmes. Le samedi suivant, j'aperçus la belle juive à la promenade. Nous étions assez près pour que je puisse l'aborder sans avoir l'air de la rechercher, d'autant que ses regards semblaient me dire « Venez ». On ne vous voit plus, monsieur, me dit-elle, mais venez demain matin déjeuner avec moi et je vous renvoie le cheval. Je lui promis d'être chez elle de bonne heure, et nul doute que je ne lui tinsse parole. Nous déjeunâmes presque tête à tête, car sa tante, quoique entière, n'était là que pour la décence. Après le déjeuner, étant convenue de monter à cheval, elle s'habille en homme en ma présence, mais aussi en présence de la tante. Comme elle avait passé sa culotte de peau à l'avance, elle laissa tomber ses jupes, puis elle ôta son corset et se mit en veste. Alors je vis, sans avoir l'air d'y faire attention, une gorge superbe, mais la rusée savait bien à quoi s'en tenir sur mon indifférence. « Voulez-vous bien, me dit-elle, m'arranger mon jabot ?» C'était me mettre sur des tisons, et ma main fut librement indiscrète. Cependant, dans tout ce manège, je crus deviner un projet, et je me mis en garde pour le déjouer. Son père arriva au moment où nous montions à cheval. « Si vous voulez, me dit-il, m'acheter le phaéton, les chevaux, oh, je diminuerai de 20 sequins. »« Votre fille, lui répondis-je, est la maîtresse de me faire faire tout ce qu'elle voudra à notre retour de la promenade. » Nous partons au pas, et en conversant, Lia me dit qu'elle avait eu l'imprudence de dire à son père qu'elle était la maîtresse de me faire acheter la voiture et que, si je ne voulais pas la brouiller avec lui, il fallait que j'eusse la bonté de l'acheter. « Concluez le marché, ajouta-t-elle, et réservez-vous de m'en faire présent, jusqu'au moment où vous serez convaincu que je vous aime. » « Ma chère Lia, vous êtes la maîtresse de vous faire obéir, mais vous savez à quelles conditions. Je vous promets que nous irons nous promener seuls quand vous voudrez, sans cependant descendre nulle part. Mais je crois que vous ne vous en souciez plus. Votre inclination était bien passagère, ce n'était qu'un simple caprice. Pour vous convaincre du contraire, j'achèterai le phaéton et je le ferai mettre dans une remise. Quant aux chevaux, je les ferai soigner sans m'en servir. Mais si dans l'espace de 8 jours, vous ne me rendez pas heureux, je revendrai le tout. Venez demain. Je viendrai, mais je veux ce matin un gage de tendresse. Ce matin, il me serait impossible. Pardonnez-moi, je monterai avec vous et en vous déshabillant, vous pouvez m'accorder plus d'une faveur. Nous rentrons, et je fus ébahi en entendant dire à son père que le phaéton était à moi et qu'il n'avait qu'à le faire atteler. Le juif sourit, nous montons tous trois et Lia, d'un air sûr d'elle-même, me dit « Comptez l'argent. Ah, je ne l'ai pas sur moi, mais je vais vous donner un billet. » Voilà du papier. Je n'hésite pas d'écrire au banquier Zapata de payer à vue 385. Le juif part pour aller les recevoir et Lia reste seule avec moi. « En vous fiant à moi, mon ami, me dit-elle, vous vous êtes rendu digne de mon cœur. Vite donc, déshabillez-vous. Non, ma tante est dans la maison, et comme je ne puis fermer la porte, elle pourrait entrer. Mais je vous promets que demain vous serez content de moi. Je vais cependant me déshabiller, mais retirez-vous dans ce cabinet. Vous rentrerez quand j'aurai repris les habits de mon sexe. » J'y consens et elle m'y enferme. Je regarde à la porte et j'aperçois une légère fente entre les deux battants. Je monte sur un tabouret, j'y colle mon œil et j'aperçois Lia assise sur un canapé et occupée à se déshabiller. Elle ôte sa chemise et prenant une serviette à côté d'elle, elle essuie ses seins puis ses pieds et dès qu'elle eut ôté sa culotte, nue comme la main, une de ses bagues tomba comme par hasard et roula sous le canapé. Aussitôt elle se lève, regarde à droite, à gauche, puis elle se baisse pour chercher sous le sofa, et pour l'atteindre, elle est obligée de se mettre à genoux, la tête baissée. S'étant remise sur le canapé, la serviette fut encore nécessaire, et alors elle s'essuya partout, de sorte que, pas une petite portion de son beau corps ne fut un secret pour mon œil avide de tant de charme. J'étais certain qu'elle me savait spectateur de tout ce manège, et elle devinait probablement tout le ravage qu'elle faisait sur ma nature inflammable. Enfin, la toilette étant achevée, elle vint me délivrer. Je l'enlace dans mes bras en lui disant « J'ai tout vu ». Elle fait l'incrédule. Je lui montre le parquet et me dispose à user de mes droits, quand le maudit Moïse entre. Il était aveugle ou il put s'apercevoir de l'état où m'avait mis la fille. Cependant, il vint à moi en me remerciant et en me donnant quittance de la somme qu'il venait de toucher en disant « Vous êtes le maître de toute ma maison !» Je leur dis adieu et je partis fâché. Monté dans mon phaéton, je me rendis chez moi et, gardant le cocher, je le chargeai de trouver de suite une écurie et une remise. Je pensais à ne plus voir Lia et j'avais de l'aigreur contre elle. Elle ne m'avait que trop plu dans ses postures voluptueuses, mais elle m'avait causé une irritation ennemie mortelle de l'amour. Elle l'avait forcée à être voleur et l'enfant affamé y avait consenti. Mais quand après le fait, il se crut en devoir d'exiger une nourriture plus substantielle, et qu'il se vit refuser, le mépris succéda à l'ardeur. Lia ne voulut pas s'avouer ce qu'elle était en effet, et mon amour ne voulut pas se déclarer fripon. Je fis connaissance avec un fort aimable chevalier, militaire, homme de lettres, grand amateur de chevaux, qui me fit faire plusieurs jolies connaissances, que pourtant je ne cultivais pas, parce qu'il aurait fallu, auprès de toutes, me mettre en frais de sentiments, et que je ne voulais que des plaisirs solides, même au prix de grosses sommes. Le chevalier de Brézé n'était pas l'homme qu'il me fallait. Il était trop vertueux pour un libertin tel que moi. Il m'acheta le phaéton et les chevaux que j'avais promis à l'IA, et je n'y perdis que 30 sequins. Un monsieur Baretti, qui m'avait connu à Aix-en-Savoie, me mena chez la Mazzoli, ci-devant danseuse, et alors maîtresse du chevalier Raiberti, homme froid et très honnête homme, qui était alors chargé du portefeuille des affaires étrangères de Sa Majesté à l'Obroge. Cette femme, point jolie, était fort complaisante. Elle me faisait venir chez elle des filles, mais pas une ne me parut digne de remplacer Lia, que je croyais ne plus aimer. Mais je me trompais. Je m'ennuyais, et des armoises qui mangeaient toujours avec moi n'y trouvaient pas son compte. Il me conseilla de faire la connaissance d'une Française, marchande de mode très célèbre à Turin. Elle se nommait Madame R. Elle avait à son service 7 ou 8 demoiselles qu'elle faisait travailler dans une salle contiguë à son magasin. Il croyait que si je savais m'y prendre, je pourrais m'en approprier une à mon goût. La bourse bien fournie, je ne crus pas la chose fort difficile et je suivis son conseil. J'entre chez cette dame et fus agréablement surpris en y trouvant Lia occupée à marchander une foule de choses mais dont elle trouvait le prix trop élevé. Elle me dit d'un ton de reproche obligeant qu'elle me croyait malade. « Oh, j'ai été très occupé, lui dis-je, et je sentis toute mon ardeur se réveiller. J'aurai, ajoutai-je, le plaisir de vous voir demain. » Elle m'invita à une noce juive où, me dit-elle, je trouverai nombreuses compagnies et plusieurs jolies demoiselles. Je savais que ces sortes de cérémonies sont fort amusantes et je lui promis d'y assister. Après avoir beaucoup marchandé, trouvant tout trop cher, elle s'en alla. Madame R allait remettre à leur place tous ses colifichets quand je lui dis « Bien, je prends tout cela pour mon compte ». Elle fit un sourire et, tirant ma bourse, je lui comptai son argent. « Où logez-vous, monsieur ?» me dit-elle. « Et à quelle heure dois-je vous envoyer ces emplettes ?»« Oh, vous pourriez, madame, faire l'honneur de me les apporter demain, vous-même, à 9 heures, et déjeuner avec moi. Je ne saurais m'absenter un moment d'ici, monsieur. » Madame R, malgré ses 35 ans, était encore ce qu'on peut appeler un morceau ragoûtant et m'avait donné des velléités. « Je voudrais, lui dis-je, des blondes noires. Veuillez me suivre, monsieur, je vous prie. » Je fus ravi en voyant dans la salle une foule de jeunes ouvrières toutes charmantes, très attentives à leurs besognes et qui à peine osaient me regarder. Madame R ouvrit plusieurs armoires et me montra des blondes magnifiques. Distrait à contempler le troupeau de nymphes, je lui dis que j'en voulais pour 2 bounces à la vénitienne. Elle savait ce que c'est. À Venise, c'était de mon temps un objet du plus grand luxe. Ces blondes me coûtèrent au-delà de 100 sequins. Nommant 2 de ces demoiselles, ma mère leur dit qu'elle me les porterait le lendemain chez moi avec les marchandises que l'IA avait choisi et qu'elle avait trouvé trop cher. Ben oui, maman, fut leur réponse. Elles se levèrent, vinrent baiser la main à leur maman, cérémonie que je trouvais plaisante, mais qui me fournit l'occasion de les examiner. Je les trouvais charmantes. Nous rentrons dans le magasin, et, m'asseyant auprès du comptoir, je fais l'éloge de la beauté de ces jeunes personnes, en ajoutant, ce qui n'était pas vrai, que je l'aurais préféré à ses élèves. Elle me remercia en me disant sans détour qu'elle avait un amant, et elle me l'annonça un instant après. C'était le comte de Saint-Gilles, homme caduc et très peu propre à la galanterie. Je crus que ma mère plaisantait, mais je sus le lendemain qu'elle avait dit vrai. Chacun a son goût, et je suppose que cette femme, capable de faire un caprice, était plus amoureuse de la bourse que de la personne de son baron. Le lendemain, les 2 jolies soubrettes vinrent me porter la marchandise. Je leur offris du chocolat, mais impossible de le leur faire accepter. Le caprice me vint de les charger de porter à Lia tout ce qu'elle avait choisi, les priant de revenir pour me dire comment elle aurait accueilli mon présent. Elles s'en chargèrent et attendirent que j'eusse écrit un billet. Il me fut impossible de leur donner la moindre marque de tendresse, car je n'avais pas osé fermer la porte, et la maîtresse ainsi que les laides filles de la maison ne faisaient qu'aller et venir. Mais à leur retour, les ayant attendus sur l'escalier, et après leur avoir donné un sequin à chacune, je leur dis qu'il ne dépendait que d'elles de s'emparer de mon cœur. Lia avait agréé mon beau présent et me faisait dire qu'elle m'attendait. Dans l'après-midi, me promenant sans but, je vins à passer devant le magasin de mode, et Madame R, m'ayant vu, m'invita à entrer et me fit asseoir auprès d'elle. « Monsieur, me dit-elle, je vous remercie beaucoup de votre générosité envers mesdemoiselles. Elles sont revenues enchantées. Dites-moi franchement si vous êtes bien épris de la belle juive. Oui, j'en suis tout à fait amoureux, mais comme je ne suis pas heureux, j'en ai pris mon parti. Mais vous avez parfaitement bien fait. Lia est une friponne qui ne pense qu'à faire des dupes de tous ceux qui se laissent séduire par ses charmes. Et ne serait-ce peut-être pas aussi la maxime de vos charmantes élèves ? Non, non, mais elles ne sont complaisantes que quand je le leur permets. Je me recommande donc à vos bontés, car elles n'ont pas même voulu accepter une tasse de chocolat. C'est ainsi qu'elles doivent agir. Je vois que vous ne connaissez pas Turin. Vous trouvez-vous bien logé là où vous êtes ? Très bien. Y êtes-vous en parfaite liberté ? Oh, je le pense. Pouvez-vous donner à souper à qui vous voulez et faire tout ce que vous voulez dans votre intérieur ? Oh, je suis sûr que non. Bon, je n'ai pas eu jusqu'à présent l'occasion d'en faire l'expérience, mais je crois... Ne vous flattez de rien, car c'est une maison d'espions de police. Vous croyez donc que je ne pourrais point vous y donner à souper avec deux ou trois de vos élèves ? Mais ce que je sais fort bien, c'est que j'aurai garde d'y aller. Le lendemain matin, toute la ville le saurait, et surtout la police. Et si j'allais me loger ailleurs ? Mais ce serait partout la même chose, car Turin est un repère d'espions. Mais je connais une maison où vous pourriez vivre à votre guise, et où mademoiselle elle-même, avec des ménagements, pourrait vous porter tout ce que vous achèteriez chez moi. Où est cette maison ? Je suivrai en tous vos conseils. Ne vous confiez à aucun piémontais, me dit-elle. C'est la chose essentielle. Ensuite, elle m'indiqua une petite maison bien meublée, qui n'était habitée que par un vieux concierge et sa femme. « On vous la louera par mois, me dit-elle, en payant le mois d'avance. On ne vous demandera même pas votre nom. » Cette jolie maisonnette était à 200 pas de la citadelle, dans une rue solitaire, ayant une porte qui donnait dans la campagne et par où je pouvais entrer, même en voiture. Je trouvais tout comme Madame Herme l'avait dépeint. Je payais 100 marchandais le mois d'avance, et dès le lendemain, je m'y établis. Madame Mère admira ma célérité. Je me rendis à la noce juive, et j'y eus du plaisir, car cette cérémonie a quelque chose de symbolique et de ridiculement grotesque tout à la fois. Mais je résistais à tout l'art que Lia mit en œuvre pour me prendre encore dans ses filets. Je louai à son père une petite voiture fermée, que je plaçais ainsi que les chevaux dans ma petite maison. De cette manière, je me trouvais le maître d'aller où bon me semblait, par devant et par dernière, de nuit et de jour, car j'étais absolument à la ville et aux champs. Je fus obligé d'indiquer mon logement au curieux Galma et crus ne devoir rien cacher à la désarmoise, car le besoin le tenait entièrement sous ma dépendance. Malgré cela, ma porte, par mes ordres, était toujours fermée, pour eux comme pour tout le monde, à moins que je donnasse des instructions particulières pour ouvrir aux personnes que j'attendais. Je n'avais aucun sujet de douter de la fidélité de mes deux domestiques. C'est dans cette bienheureuse maison que je passais en revue toutes les jolies demoiselles de Madame R. Celles que je voulais exploiter y venaient toujours accompagnées d'une autre qui lui servait de chaperon et que je renvoyais d'ordinaire après lui avoir donné sa part de gâteau. La dernière, appelée Victorine, jolie comme un cœur et tendre comme une colombe, avait le malheur d'être ce que l'on appelle barrée, et elle n'en savait rien. Madame R, qui n'en savait rien non plus, me l'avait donnée pour vierge, et je la crus telle pendant 2 heures de suite, espérant toujours de venir à bout de vaincre le charme, ou plutôt de briser la coquille. Tout me fut inutile. Enfin, épuisé de fatigue, je voulus voir à quoi tenait l'impossibilité. Je la mis en posture et, armé d'une bougie, je commençai l'inspection. Je vis une membrane charnue percée d'un si petit trou que la tête d'une grosse épingle aurait à peine pu y passer. Victorine m'encouragea à forcer le passage avec mon petit doigt, mais je fis de vains efforts pour percer ce mur que la nature avait rendu impénétrable par les moyens ordinaires. J'étais tenté de me servir d'un bistouri pour détruire l'obstacle, et la jeune fille m'excitait à le faire. Mais, craignant une hémorragie qui m'aurait peut-être mis dans de cruels embarras, je me retins et je fis bien. La pauvre Victorine, condamnée à mourir vierge à moins qu'un habile chirurgien ne lui fît une dure opération, pleura de douleur lorsque je lui dis « Ma chère enfant, ton petit Dieu hymen défie l'amour le plus vigoureux de pénétrer dans son temple. » Mais je l'apaisai en l'assurant qu'un bon chirurgien pouvait aisément la rendre femme parfaite. Le lendemain, je contai l'accident à Madame R. Elle me dit en riant « Mais voilà un accident heureux pour Victorine. Cela peut lui faire fortune. » Le comte de Padoue la fit opérer quelques années après et fit sa fortune. À mon retour d'Espagne, je la trouvai enceinte, ce qui m'empêcha de me payer de mes inutiles efforts. Le jeudi saint, de grand matin, on vint m'annoncer Moïse et Lia. Oh, je ne m'attendais pas à leur visite, mais je leur fis grand accueil. Pendant la semaine sainte, les Juifs n'osaient pas se montrer dans les rues de Turin. Je leur conseillais donc de passer les 3 jours chez moi. Et quand je vis que le fripon m'offrait l'achat d'une belle bague, je vis que je n'aurais pas beaucoup de peine à les persuader. Je ne pourrais, lui dis-je, acheter ces bagues que des mains de Lia. Il sourit, s'imaginant sans doute que je lui en ferais présent. Mais je m'étais déjà promis de tromper son espérance. Je leur donnai noblement à dîner et à souper, et le soir, ils allèrent se coucher dans une chambre à 2 lits peu distante de la mienne. J'aurais pu les faire coucher séparément et faire placer Lia dans une chambre qui touchait à la mienne et qui m'aurait facilité auprès d'elle une excursion nocturne, mais j'avais trop fait pour Lia afin de consentir à rien devoir à une surprise ou même au simple mystère. Je voulais qu'elle vînt d'elle-même. Le lendemain, Moïse, voyant que je n'avais pas encore acheté la bague, ayant des affaires qui l'obligeaient à sortir, me demanda la voiture pour toute la journée, en me disant qu'il reviendrait le soir pour reprendre sa fille. Je fis atteler, et à son départ, je lui achetai la bague pour 600 sequins, mais aux conditions que je voulus. J'étais chez moi, Lia ne pouvait pas me tromper. Dès que le père fut parti, je m'emparai de la fille. Elle fut docile et amoureuse toute la journée. Je l'avais mise dans l'état de nature, et quoique son corps fût tout ce qu'on peut imaginer de plus parfait, j'en usais et j'en abusais de toutes les manières. Le soir, son père la trouva un peu fatiguée, mais il se montra aussi. Lia le fut moins, car elle s'attendait qu'au moment de son départ, je lui ferais présent de la bague. Mais je me bornais à lui dire que je voulais me réserver le plaisir de la lui porter chez elle.